I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Le Duo et Boris Pino. Prise de son assurée ce soir par Jean-Richard Dufour. Réalisation signée Daniel Fino. Ce soir, Corinne Rondeau et Sandra Dancorale se font face à notre affiche de Rhin Baltus. Giacometti, une amitié artistique au musée d'art moderne de la ville de Paris. Pissarro, le premier des impressionnistes au musée Marmottan Monet. Nous évoquerons aussi plus rapidement Golem, avatar d'une légende d'argile, c'est au musée d'art et d'histoire du judaïsme, et Médusa, bijoux et tabous au musée d'art moderne de la ville de Paris également. Vers 21h20, Xavier Martinet nous entendra dans le petit salon pour parler de la postérité fluctuante des artistes. Et bien sûr, encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des places de cinéma pour le beau film d'Aung San Suu, Le jour d'après, qui est sorti aujourd'hui sur les écrans. C'est au musée d'art moderne de la ville de Paris que trois amis se sont donné rendez-vous, de Rhin, Baltus et Giacometti. C'est cette amitié et ces influences croisées que veut nous raconter Jacqueline Monk, la commissaire de cette exposition. Plus de 350 œuvres, différentes natures, des peintures, des sculptures, des œuvres sur papier, des photographies, œuvres principalement centrées sur la période, on va dire, des années 30 aux années 60, pour cette exposition qui permet de voir ou de revoir notamment des œuvres d'André Derain, le doyen des amis, mais qui n'est pas aujourd'hui le plus connu des trois. Nous en reparlerons dans le petit salon. La dernière rétrospective consacrée à Derain, ça a remonté à Paris, en tout cas à 95. C'était déjà au musée d'art moderne de la ville de Paris. Si la rencontre des trois hommes se fait sous les auspices du mouvement surréaliste, ils n'en resteront pas là. On verra que le théâtre aura notamment une place importante dans leur pratique, leur visite de l'exposition de Rhin Baltus Giacometti, en commençant par suivre les pas de Corinne Rondeau, qui a mis à mal une enveloppe Kraft qu'elle a ouverte, oui, déchirée, pour y prendre des notes éparses, yes, mais dans lesquelles elle va se retrouver comme toujours. Corinne.
Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas simple de faire une exposition sur l'amitié tout de même, puisque c'est vraiment le fil conducteur de ça, réunir trois artistes dont on, a priori, on se dit n'ont rien de commun entre eux, et c'est vrai formellement, de toute manière. Ce qui pourrait les rattacher, c'est quand même leur attachement, justement, à l'histoire du passé, et non pas une perspective futuriste ou je ne sais quoi. Donc il y a vraiment, je trouve, une belle entrée entre trois autoportraits, où là, on a quand même un univers, une singularité des trois. La solitude d'un autoportrait seul de Giacometti, un portrait de famille de Rhin et un autoportrait avec le roi des chats de Baltus. Et c'est assez beau de voir cette diversité et en même temps cette, aussi cette diversité qui va les réunir. Et puis, à côté de ça, une nature morte, la nature morte aux poires de Rhin. qui sur un côté sombre, avec une citation de Giacometti, qui dit que finalement c'est la première fois qu'il voyait une œuvre sans apparence immédiate. Et ça, il faut, cette phrase est quand même très, elle est pas que singulière, elle est très, elle est un phare, on va dire, de tout ce qui va se passer dans l'exposition, parce que rien ne se donne dans cette exposition. Et en même temps, c'est aussi être dans une sorte d'élasticité de l'un à l'autre et se retrouver, non pas avec les trois, mais dans un rapport, un temps. Et cette nature en morte, bon, c'est une belle annonce de ce Derain de sa deuxième partie de son œuvre, qui est absolument saisissante. Moi, je dois dire que j'ai cru que c'était un boxeur qui m'a mis quelques uppercuts très, très bien marqués, je dois dire. Et donc, c'est une nature morte noire avec une poire au centre, deux morceaux et une cuillère sur le devant, sur un fond noir. Et il y a quelque chose quasiment d'un troisième style pompéien dans cette peinture qu'on va retrouver à la fin de l'exposition. Et donc là, on nous ouvre, je dirais, le parcours comme il se doit, avec trois individus, puis leur histoire aussi avec la peinture, l'influence de l'art océanique pour Derain, notamment Balthus avec les copies puisqu'il part en 26 à Arezzo, puisque Bonnard notamment lui dit mais il faut peindre. Donc il part en Italie, il va faire des copies de la légende de la Sainte Croix de Piero La Francesca, dont on voit évidemment à quel point il est capable de suivre la scénographie du tableau par des touches qu'il abstrait beaucoup plus à l'intérieur de la narration que porte Piero La Francesca, et cette manière très belle qu'il aura de dire... pour les décrire, je ne peux que les peindre. Et en fait, pour parler de ces trois peintres, c'est un peu ça, il faudrait les peindre plutôt que d'en parler, parce que c'est très dur, je trouve, de devoir en parler les trois à la fois. On est obligé de faire trois chemins différents, même s'ils se retrouvent là avec beaucoup de force. Bon, il y a des thématiques, le modèle, le sommeil, et puis au milieu, il y a des intermezzos qui, effectivement, Arnaud, vous l'avez indiqué, ce rapport à l'opéra, au théâtre, la scénographie, les costumes, que j'ignorais par ailleurs, vraiment, et Balthus ayant eu une vraie, et aussi Derain, une grosse production, vraiment, au cœur du théâtre, et du théâtre vraiment le plus... important de cette époque-là, il y a Barrault, il y a Camus, enfin bon.
Donc c'est Artaud vraiment... qui passe par là
et
aussi.
Et Artaud, mais évidemment, le grand ami de ces trois-là, c'est Artaud, même s'ils ont des modèles communs. Il y a Artaud qui a d'ailleurs sauvé Balthus de son suicide. Voilà. Donc c'est une exposition à la fois étrange et à la fois presque pleine de nouveautés. Voilà.
Bon, on y reviendra plus précisément aussi avec vous, Corinne Rondeau. Premier regard de Sandra Adam-Corralet sur cette exposition de Derain, Balthus, Giacometti.
Oui, c'est un très joli sujet que celui de l'amitié artistique, effectivement. Comment, à partir de liens affectifs, finalement, on établit une communauté esthétique. Ça, je trouve ça un très beau sujet. C'est une approche qui peut permettre d'éclairer effectivement la pratique de chacun des artistes et surtout de la remettre dans un contexte commun. Donc ça, c'était une très belle idée. Corinne l'a dit, c'est un parcours donc très... avec de nombreux fils conducteurs, il y a de nombreuses séquences, donc cet attachement à... Enfin, ce voyage en Italie, la fascination pour les artistes anciens, cet attachement à la figuration qui va finalement caractériser le deuxième Derain, celui qu'on appelait le Derain byzantin, en tout cas la période byzantine de Derain après les années 20, qu'on connaît moins bien en fait que le Derain fauve en fait qu'il a été avant, la question du théâtre et l'invention. Ça, je trouve que c'est la partie la plus réussie, en tout cas dans cette mise en relation des trois artistes, l'invention d'un certain pathétique au sortir de la Première Guerre mondiale, et ça on le trouve dans la dernière partie, je ne me souviens
plus. La griffe sombre.
Voilà, la griffe sombre qui montre finalement chez ces trois artistes peut-être un rapport complexe au réel, et peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs ils reviennent à cette question de la figuration, et Giacometti va admirer Derain pour cela, pour le dépasser, voilà, et ça réunit cette dernière salle des œuvres assez incroyables, la grande bacchanale noire de Derain, qui d'ailleurs vient d'entrer, il me semble, dans les collections du Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, qui date des années 35-45, qui est une sorte... de bacchanal, donc de ce sujet antique traité de manière monumentale qui ressemble à donc des personnages sur fond noir qui ressemble à une sorte de peinture du Moyen-Âge, mais qui en même temps, je trouve, synthétise vraiment ce qu'a voulu dire peut-être Derain à la fin de sa vie, puisqu'il y a un côté primitif, en fait, qui rappelle peut-être les baigneuses. Vous savez, les fameuses baigneuses que Derain avait peint plutôt dans les années 10, mais ça, je dis peut-être une bêtise, disons que c'est dans les années 10, en tout cas, qui s'inspirent des arts extra-européens. Et en tout cas, donc, ces grandes bacchanales noires, voilà, sont une sorte de synthèse entre cette recherche d'une figuration, ce retour à la peinture ancienne, peut-être, et puis une sorte de théâtre primitif. Artaud parlera d'un retour à une mystérieuse tradition chez Derain. Donc voilà, cette dernière salle est très belle avec cette bacchanale, mise à côté de l'objet invisible de Giacometti de 34, donc cette impossible quête du réel toujours, et puis les joueurs de cartes, incroyable tableau de Balthus de 52. Donc il y a cette salle qui est incroyable et qui fait écho finalement, la griffe sombre, avec ces trois autoportraits que vous décriviez, Corinne, qui sont assez symboliques.
Qui nous accueillent.
Voilà, exactement. Alors cependant, moi je trouve que...
Restez un instant dans cette cette salle noire, j'allais dire, mais parce qu'il y a une nature morte sur fond noir aussi, moi, de Derain, que j'ai trouvé très saisissante, parce que vraiment il y a à peine quelques coups de pinceau qui figurent, un vase, une vasque. Il y a quelque chose d'extrêmement libre, c'est un geste d'une épure incroyable, et je trouve qu'il y avait une force terrible dans ce tableau, notamment sur cette salle, Corinne Rondeau.
Oui, c'est une salle réussie, mais elle est réussie grâce à Derain.
Et c'est vrai
que... Moi, je crois que je ne me suis jamais intéressée à Derain. C'est vraiment une découverte et vraiment... Alors, ça n'a pas mon goût, je dirais, esthétique, mais je dois dire qu'il est incontestable que c'est un grand peintre, un grand maître de la peinture, à la fois pour ce caractère de présence inouïe, les bacchanales, les trois tableaux de bacchanales de 45, et cette nature morte dont vous parlez, Arnaud, c'est à la fois une présence des corps et puis une folie, parce que il y a une bacchanale plus petite avec des traits blancs. On a l'impression qu'il y a une lumière rasante comme ça, qui fait surgir des espèces d'êtres comme si c'était un enfer, comme si les corps étaient des torches, quelque chose d'une urgence, dans la touche, à la fois dans la manière dont il met la peinture sur la toile, et en même temps, cette liberté, c'est-à-dire aussi l'urgence. Il y a de l'urgence dans cette... Et c'est là que vraiment le style pompéien du troisième style, moi, que m'était apparu, mais d'où... Et c'est un grand... C'est quelqu'un qui synthétise énormément l'art, qu'il a vu, qu'il reprend. Et c'est vrai que je veux pas tirer trop la nappe vers Derain, mais il y a une nature morte à l'entrée, enfin dans la première courbe, nature morte aux oranges. Écoutez, là, c'est une épaisseur à la Chardin, mais avec une abstraction de la touche. Vous avez un trait blanc un peu cassé qui tombe. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est prodigieux, je dirais, dans cette manière de... Je crois que le vrai mot, c'est liberté pour Derain. Chez Balthus, il y a une dimension. Alors, c'est le noir et le coup de poing pour Derain. Chez Balthus, il y a cette transparence et cette muralité. C'est-à-dire, on se dit, comment peut-il faire à la fois de la transparence et de la muralité, parce que c'est les deux pôles, on va dire, de son travail. Il y a des natures mortes, une nature morte où il y a un marteau, une carafe brisée, où il y en a une autre avec une miche, où il y a un couteau qui est planté, on se dit, on n'aimerait pas être là sur la table.
Oui, on dirait des scènes de crime presque à chaque fois.
Oui, il y a quelque chose d'une violence masquée toujours et voilée, c'est ça qui est intéressant, puisque c'est vraiment la déflagration du fantasme avec Balthus. Et en même temps, on peut voir courir sur toute la production, parce que c'est vraiment, il faut picorer, parce qu'on n'a vraiment pas la totalité de chacune des œuvres, donc forcément on est un peu frustré, mais en même temps c'est vachement bien. Et donc chez Balthus, on voit, grâce à cette production, enfin ces séries de Piero La Francesca qui ont été des copies, on voit comment il compose vraiment. Vous avez ce goûter là, le goûter, enfin la nature morte avec figure. Vous avez une énorme pomme, une proie, elle est si grosse, et en fait elle a la même tonalité qu'une petite pomme, puis ensuite vous avez un verre, puis ensuite vous avez le visage, et en fait vous avez vraiment une horizontalité. Et quand vous avez évidemment la rue, ce tableau qui a vraiment marqué notamment Pierre Loeb, un des trois marchands qui a beaucoup compté pour Balthus. Je veux dire, ce tableau, vous le regardez, il y a la petite fille qui se fait toucher par un garçon derrière, elle a une veste rouge, il y a une petite fille qui... Il y a une balle rouge, puis ensuite il y a un bonnet avec une croix rouge, et puis au fond, vous avez encore un point rouge. Bon, moi ça me fait penser vraiment même à la peinture du XVIe siècle, où Titien et Tintoret. Tintoret, vous suivez la narration avec des points de couleur, ou avec des choses rouges. Il y a la toilette de Cathy, par exemple, elle a des chaussettes rouges, elle a des chaussons verts. Bon, c'est du Piero la Francesca, mais et si vous regardez tout le reste où il y a du vert, il structure complètement l'architecture du tableau. C'est incroyable. Bon, et c'est vrai que par ailleurs, moi, j'étais tellement marquée par cette peinture de Derain, j'étais contente de revoir du Balthus. J'ai trouvé quand même Giacometti un petit peu en retrait, mais c'est effectivement aussi l'artiste de la distance et du retrait. Et donc, je suis très heureuse finalement d'avoir vu cette amitié à travers ces trois tempéraments, ces trois formes. Voilà, Sandra a parlé d'esthétique, c'est vrai, voilà, ils ont. Mais à la fois cet attachement profond, je veux dire, la mort de Giacometti, Balthus la voit en entrant le jour même dans une fonderie à Rome, il se dit, mon Dieu, mon ami Giacometti, et il apprend la mort le soir même, je crois. Il devient le directeur de la Villa Médicis en 70, il fait une exposition sur Giacometti, en 76, il fait une exposition sur Derain. Il rentre en 61 à la Villa Médicis. Donc c'est vraiment une passion, je dirais, de l'amitié, de la mémoire, des arts et de l'art lui-même, quoi.
Sandra, a donc encore allé.
Mais c'est vrai qu'il y a cette fréquentation de comment dire des mêmes mécènes, des mêmes marchands. Il y a des modèles qui ont posé pour les trois artistes comme Isabelle Rossorn ou Sonia Mossé par exemple. Donc ils se sont vraiment côtoyés, ils ont fait des choses ensemble. Mais néanmoins, moi j'ai l'impression que ce qui ressort de l'exposition et ça rejoint ce qu'on dit finalement et ce qui fait qu'on insiste sur Derain, c'est que c'est pas vraiment un trio. Moi j'ai l'impression, c'est plutôt des duos. C'est-à-dire qu'il y a le duo Derain-Balthus, notamment de le rapprochement. Sur le théâtre, autour de la figure d'Artaud. Donc Balthus était très admiré par Artaud, Derain a illustré Elio Gabal. Donc il y a ce rapport par rapport au théâtre, même si Giacometti, donc on le redécouvre dans l'exposition, a pu s'intéresser à la scénographie d'un Beckett. Mais bon, ça paraît plus mineur, en tout cas, c'est pas mis en avant dans l'exposition. Donc il y a ce duo Derain-Balthus qui est très mis en avant et qui est aussi mis en avant formellement, notamment dans les figures de nus. Cette grande salle, je crois qu'il s'appelle le modèle, où on voit une relation frappante entre les nus peints de Derain et les nus étranges de Balthus, c'est assez incroyable quand il y a ces deux peintures. Je crois que c'est le nu assis à la draperie verte de Derain des années 30 et la jeune fille à la chemise blanche de Balthus. C'est exactement la même scène étrange où il y a ce personnage de jeune fille dévêtue sur un fond ocre. Voilà, c'est la même iconographie, la même étrangeté, je pourrais dire. Donc voilà, il y a ce duo Derain-Balthus qui est assez évident. Et puis, il y a le duo Derain-Giacometti, peut-être, puisque Giacometti est un fervent admirateur de Derain. Il l'a beaucoup regardé, il l'a beaucoup défendu. Il y a des salles, d'ailleurs, où ça marche très bien, cette mise en rapport, parce que c'est une exposition, donc c'est aussi l'occasion de mettre des œuvres les unes à côté des autres et de voir ce qu'elles ont en commun, même visuellement, j'ai envie de dire. Il y a, par exemple, dans les premières salles, ce grand portrait d'Iturino, par Derain de 1914, donc on est au tout début du moment où il abandonne le fauvisme pour aller dans le réalisme. Donc il peint Iturino. Iturino, c'était un ami de Picasso qui est représenté en grand costume noir, qui a un visage émacié, qui a une sorte d'élongation du corps et des mains. Et là, on voit bien que ça annonce Giacometti. D'ailleurs, juste à côté, il y a la femme qui marche de Giacometti, de 1932. Donc là, on voit bien effectivement le rapport. Et Giacometti, on le sait à travers différents textes, a toujours voué un culte en tout cas a défendu même ce Derain qui est revenu à la figuration. Il disait Derain est le peintre qui me passionne le plus, qui m'a le plus apporté, le plus appris depuis Cézanne, il est pour moi le plus audacieux. Donc voilà, il y a ces deux duos et même si Balthus et Giacometti, on le sait, l'exposition le montre, se sont côtoyés, on a plutôt l'impression finalement que ces Derain, il faut le rappeler, qui était l'aîné de Balthus et Giacometti, qui avait 20 ans de plus, qui est mis en avant effectivement. Et finalement, cette exposition, c'est plutôt la figure de Derain, peut-être, et sa filiation. C'est-à-dire que c'est une très belle exposition là-dessus, sur cette redécouverte, je suis d'accord avec Corinne, sur cette seconde œuvre de Derain qu'on connaît mal, qui a été rarement montrée d'ailleurs. Je crois qu'il y a eu quelques tableaux montrés dans l'exposition au musée de l'Orangerie récemment sur Apollinaire et puis sur la collection Chokine. Et je sais qu'il y a, en octobre prochain, je crois, une exposition au Centre Pompidou qui se prépare sur Derain, mais qui va être consacrée aux années 1904-1914. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, c'est l'occasion vraiment de redécouvrir ce grand Derain qui n'est pas fauve, mais qui est dans cette figuration assez étrange et assez passionnante.
Un dernier mot, Corinne Rondeau ?
Oui, c'était pas la toilette de Cathy, c'était la chambre, sur les chaussettes rouges et les chaussons verts.
C'était bien de le préciser.
Ouais.
Et non, ces incroyables illustrations des hauts d'Hurlevent.
Eh bien oui, c'était une des choses que je voulais dire, parce qu'ils sont aussi violents que le roman, de toute façon.
Terrible.
Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont il peint avant certains sujets pour les hauts d'Hurlevent, et dont un va servir la peinture. Et il dit, c'est pas de l'illustration du tout. On peut comprendre, et puis en plus, je crois qu'il y a un petit attachement aussi entre le dessin et son frère aussi qui va reprendre Pierre Klosowski qui va reprendre aussi les devants du fantasme, l'un chez les petites filles, l'un chez les petits garçons. Mais non, c'est vrai qu'ils sont, c'est ce que j'ai retenu le plus, parce que dans cette salle il y a les costumes, notamment de Derain, je crois, pour les Saint-Cyr, mais de Artaud, je ne suis pas sûre. Non, ça c'est Balthus.
C'est Balthus, je crois.
Ouais, c'est Balthus. Non, enfin, je ne sais plus, mais c'est ça qui m'a vraiment marqué, parce que j'ai trouvé les traits saillants d'une dureté incroyable, même si c'est figuratif, on a l'impression que le trait, si on le regarde longtemps, va déchirer le papier. Enfin, c'est quelque chose de très dur, qui est étonnant par rapport à, effectivement, sa peinture, qui a un côté filtré tout le temps, notamment quand il peint quasi à fresco, où là, il y a vraiment la dimension de la muralité qui réapparaît. Ça, c'est certain. Enfin voilà, c'est une exposition. Ouais. Je suis contente, moi, d'avoir vu cette expo, simplement pour pas oublier qu'il y a eu toute cette partie, notamment après-guerre, comme vous le disiez, Sandra, tout à l'heure. Parce que je pense qu'on va faire un retour un peu dans ces eaux-là. Et ça fait un petit moment qu'on y revient, parce que pour réouvrir, en fait, toute une partie du champ de l'art, qui est figuratif et non pas abstrait, en fait, qui est une dichotomie stupide, qui était une manière aussi de montrer la force de la peinture au-delà même de la figuration.
Et puis, je souligne aussi la scénographie aérée, élégante, de Cécile de Gauze. Je le souligne d'autant plus qu'on trouve le nom de la scénographe nulle part dans les documents de communication du Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, que c'est mal, parce que les scénographes, ils sont partie prenante au combien des expositions. Donc voilà, un petit coup de griffe au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris.
Ça finit par faire demeure, je trouve.
Oui, il y a quelque chose de...
Non, vous ne trouvez pas ?
Ça respire. Demeure.
Comme une maison. Ouais. Les présentations des petits sujets, des peintures au début, il y a un retour comme ça, on dirait qu'on est à la maison.
Il y a une fluidité, dans la circulation. Et puis c'est très fini, parce que je critiquais un peu le côté trio, mais néanmoins, donc cette belle redécouverte de Derain. Et puis il y a des prés exceptionnels quand même. La rue de Balthus, quand même, qui vient du MoMA, je crois.
Oui, il y a un certain nombre d'œuvres qui viennent.
Le maître n'a pas prêté la montagne, mais nous avons le MoMA, effectivement.
Ce qui est pas mal. Le maître en a prêté d'autres, me semble-t-il. Donc oui, effectivement, de beaux prêts et une belle scénographie. Pour cette exposition Derain, Balthus, Giacometti, une amitié artistique à découvrir jusqu'au 29 octobre au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Et puis un catalogue, bien sûr, de l'exposition publiée par Paris Musée.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
À suivre dans la dispute Pissarro, le golem et des bijoux. Avant cela, on suit Xavier Martinet dans le petit salon. Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Alors, ce soir, en effet, être. Et avoir été, peut-être.
Être et être plus tard aussi. Vous avez largement évoqué l'intérêt de représenter, réexposer André Derain dans cette exposition collective au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Aussi, vous l'avez dit, Sandra, au Centre Pompidou, dans une monographie à la fin de l'année, alors que la seule rétrospective date de 1995 et la précédente à sa mort en 1954. Vous allez aussi parler des impressionnistes, c'est-à-dire à travers Pissarro des impressionnistes. Il sera au Musée du Luxembourg, au Musée Marmottan, deux expositions cette année. Pour le Musée Marmottan, c'est même le premier des impressionnistes qu'on réexpose désormais. Lui n'avait pas été montré depuis une grande rétrospective au Grand Palais en 1981. J'ajoute concernant les impressionnistes que les journaux ont beaucoup parlé aussi de la redécouverte de Gustave Caillebotte l'année dernière au cours de la grande série Normandie Impressionniste. Un cas d'école ou un cas peut-être trop particulier, on pourra en reparler à la fin, mais l'histoire remonte à loin. En fait, l'Art Media Agency là, situe la date charnière au 8 mai 2000 2000, moment où une de ses œuvres atteint 13 millions de dollars. Voilà, tout cela pour dire qu'il faut inscrire ces redécouvertes et Pissarro peut-être plus que de Rhin dans une vague d'abord favorable à l'impressionnisme et à ses retombées, passées en détail dans cet article Les Années-Lumière, écrit par Olivier Sénat dans Télérama l'année dernière, au début justement de la saison de Normandie impressionniste, un festival qui incarne lui-même ce succès avec 3 éditions depuis 2010 et une vague impressionniste qui a connu un point d'inflexion en 2013, soulignait Judith Benamou-Huet dans Les Échos, avec l'arrivée de Patrick de Carolis au musée Marmottan-Monet à Paris. Son premier geste était, rappelez-vous, une exposition Les Impressionnistes en privé, sans chef-d'œuvre des collections particulières. Une exposition assez disparate, hein, 115 œuvres, tableaux et sculptures, impressionnistes et assimilées, dit Judith Benamou. Assimilation qui va loin, puisqu'on va jusqu'à une sculpture de Degas. Les peintures sont à touche-touche, mais sans aucune explication ou théorie, juste pour le plaisir de l'œil, conclut Judith Benamou. Étrange projet, en tout cas peut-être un peu fourre-tout, mais de nature à lancer une mode, ou du moins tester un goût affranchi de la narration, comme vous le disiez Corinne, sans référence extérieure, disait Olivier Sénat. Voilà pour l'impressionnisme, c'est à voir. Pour le reste, il n'y a pas de synthèse, mais il faut fouiller. L'exploration de cette veine historique des débuts de l'art moderne, justement, explique peut-être le retour aussi d'Odilon Redon, symboliste nabi, aujourd'hui plutôt bien exposé. Il est au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, redécouvert aussi lors d'une grande exposition au Grand Palais en 2011. C'était la première rétrospective depuis 50 ans. Notez le point. Redécouverte affichée aussi en 2013 au Musée Bonnard, Odilon Redon. Il faut dire que son surnom sonne mieux ou au moins aussi bien que premier impressionniste ou premier moderne, puisque lui, c'était le prince du rêve. On l'appelait comme ça à l'époque. Autre cas de résurrection intéressante évoqué sur cette chaîne par Charles Dantzic en 2011, c'était le peintre florentin du XVIe siècle, Agnolo Bronzino, peintre de cour dédaigné comme faiseur et réintégré dans la grande peinture florentine à la faveur de la redécouverte d'un tableau au Musée des Beaux-Arts de Nice en 2005. Le résultat, c'était un accrochage spécial en octobre 2011, un colloque à Paris, et puis l'année précédente, le Palazzo Strozzi de Florence venait avec 70 tableaux de toute l'Europe de réaliser la première rétrospective consacrée à celui qu'il appelait le peintre et poète à la cour des Médicis. On ne peut pas faire plus pompeux, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas, c'est l'œil d'un conservateur spécialiste de l'œuvre qui est à l'origine de cette renaissance, plutôt que, disons, les projets d'un directeur de musée. En tout cas, une résurrection est souvent une affaire internationale et met en jeu parfois toute une filière culturelle. Le cas de Van Dyck est intéressant, lui aussi un peu oublié de la peinture flamande, lui aussi portraitiste. Or, depuis une première exposition Van Dyck portraitiste au musée Jacques Marandré, eh bien deux musées ont tenté de le faire sortir de l'ombre de Rubens avec plus ou moins de succès. Le musée du Prado en 2012 et la Pinacothèque, alors là, vraiment sans succès, à Paris en 2015, même pas un succès d'estime. En 2014, la National Gallery, en tout cas, et c'est pour ça que je parlais d'une filière, achetait l'autoportrait de Van Dyck pour plus de 8 millions de livres. Un an après, c'était une émission de la BBC sur la redécouverte d'un autre Van Dyck mésestimé dans un musée de province anglais. On le voit qu'il faut quand même tout un environnement. Reste maintenant, pour terminer, d'autres redécouvertes inexpliquées ces dernières années ou ces derniers mois. Fantin Latour au musée du Luxembourg, Georges Braque au Grand Palais, et puis ceux qu'on pourrait appeler les oubliés si on pense à cette grande vague impressionniste. Hein, Cézanne, j'ai l'impression, rien depuis 1995. Monet peut-être trop vu maintenant ou mal vu. Delacroix, rien du tout. Baudelaire serait triste. Alors, qu'est-ce qui fait les fluctuations d'une postérité? Je ne vous demanderai peut-être pas cela, les modes, les marchés, au fond, on n'en sait rien. Mais qu'est-ce qui fait pour vous une redécouverte?
Ah, voilà une autre question, hein, parce que c'est non égrené. Il y en a beaucoup qui sont quand même très présents dans les esprits dans les collections et dans les expositions.
Van Dyck en Angleterre, c'est normal, ils n'ont qu'un peintre de cette époque-là, c'est lui, et c'est pas en anglais en plus. Et Delacroix, on en aura une l'année prochaine, donc, rassurez-vous. Donc qu'est-ce qui fait une redécouverte d'un point de vue historique, on va dire, ou d'un point de vue personnel, parce que redécouverte, on peut en faire tout le temps à travers même des œuvres qu'on croit connaître.
Qu'est-ce qui fait la valeur d'une redécouverte? Si on parle de Rhin, par exemple,
l'intérêt... Oui, je suis pas sûre que le mot valeur soit bien pertinent. Je crois simplement que quand on veut qu'une discipline, si je me contente de l'histoire de l'art, si on veut qu'une discipline soit vivante, elle est faite d'une polarité qui est centrale. décentré. Donc, quand vous n'avez que du Picasso, bien obligé à un moment donné, pour faire fonctionner aussi la culture, de dire, bah, le cubisme, il n'y avait pas que Picasso, il y avait aussi Braque. Et que derrière le Picasso Braque, le Braque cubiste, il y a aussi une œuvre. Là, c'est vrai que nous avons beaucoup de redécouvertes. On parlait il y a 15 jours de Le Nain. C'est aussi une forme de redécouverte. De Le Nain, on croit le connaître, et en fait la question de la redécouverte est à la fois une histoire de goût, bien sûr, ce qu'on a oublié, puisqu'en fait si on veut avoir de la mémoire, il faut avoir oublié un petit peu les gens. Il faut aussi que quelque chose de notre propre culture ne soit pas crispé sur des caractères ou des thématiques d'une époque très marquée. Une fois qu'on les a très 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 oubliés, finalement on les redécouvre, parce que voilà, on a... Quand on n'est pas spécialiste, je dirais, un vrai historien, quoi. Donc c'est ça qui est aussi en jeu. Donc moi, je suis très heureuse, finalement, qu'il y ait à la fois tous ces artistes, ces parias de la gloire, comme le disait Pierre Cabanne, ceux qui n'ont pas atteint, puisque, par exemple, on prend un exemple simple, les impressionnistes ont fait scandale à leur époque. On parlait d'eux de manière pas tout à fait heureuse. Aujourd'hui, on ne parle que d'eux. Aujourd'hui, on parle de Vermeer, à la fin de 19e. On le redécouvre au 20e, à la fin du 19e, il est à peu près inconnu. Je crois que c'est Théodore, je ne sais plus quel, Toré, qui redécouvre, qui fait une enquête sur ce peintre de la vue de Delft, par exemple. Donc évidemment qu'il y a une fluctuation qui tient à des réactualisations, mais aussi parce que, comme disait Duchamp, le public découvre 300 ans après le Gréco. Je veux dire, on a du retard et on a besoin à la fois de collectionneurs qui n'oublient pas ce que nous oublions, on a besoin d'historiens qui sont des vrais connaisseurs et qui sont parfois mineurs dans leur domaine, comme le Bronzino dont vous parliez, qui d'un coup, à l'intérieur d'une recherche plus grande ou de restauration notamment, ben voilà, il réapparaît un peintre de cour, peu importe, c'est quand même, voilà, Brandino, c'est quand même pas rien. Et puis, bon, évidemment, je dirais, régulièrement, tout le monde monte sur la scène, ce qui n'est pas plus mal. Il y aura des artistes qu'on va oublier ou qu'on oublie déjà. Et c'est un peu aussi le mouvement de l'art qui consiste à être oublié et être rappelé à nous régulièrement. La seule chose qui compte, c'est qu'il y ait toujours des gens qui cherchent, qui aient la passion, et que la redécouverte, elle soit transmise par des passionnés, par des passeurs. Et je crois que notre culture se dépeuple de passeurs et de passionnés qui sont trop minoritaires. Par contre, on voit bien que je crois qu'il y a une... On cherche beaucoup de la nouveauté. Et on va la chercher notamment dans les vieilles choses. Et ça, c'est, par exemple, un symptôme. Ça, c'est un vrai symptôme. Comme si on avait... Je prends un exemple. Pardon, je finis là-dessus. Excusez-moi, Sandra. non, mais tout le monde, on est accroché comme des sangsues sur les années 60-70. Vous parliez hier, par exemple, de la Judson à cause de l'exposition à Nîmes. Formidable exposition. Mais par ailleurs, il n'y a pas que là. C'est partout. Je veux dire, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on est accroché aux années 60-70?
On a eu le soulèvement, on a eu...
Oui, alors là, on est... Évidemment, le symptôme, il est clairement dévoilé. Je vais pas faire un commentaire. Mais on voit bien qu'on va chercher aussi des époques, parce qu'on ne peut pas, je dirais, être dans une sorte d'acte qu'on recherche, mais qui a été produit à notre temps. Donc on se met à relire comment comment se sont produits ces actes-là. C'est ça qui est intéressant, mais en même temps, ça veut dire toute notre impuissance, dont nous sommes dans une époque de relecture de toute manière.
Mais je crois que c'est un mouvement, ce mouvement de l'art, quand même, je crois qu'il se fait... ça a toujours été comme ça, finalement. Pour moi, en tout cas, l'artiste est un peu ce fauteur de troubles qui met toujours en question un petit peu l'ordre établi. Alors, parfois, ça correspond pas effectivement avec le goût de l'époque, et puis on va le redécouvrir ensuite. Il y a la sociologue Durkheim qui parle de ce mouvement, en fait, de l'art que vous décriviez, qui est cette institution de la contestation. C'est-à-dire, finalement, Van Gogh à l'époque était vu comme quelqu'un qui peignait avec ses pieds, pour dire vite, et puis plus tard on a trouvé ça absolument génial et moderne. Ce terme de moderne, d'ailleurs, est assez intéressant. Et voilà, c'est un mouvement, l'institution de la contestation. À un moment donné, cette contestation devient instituée, mais Durkheim précise que ça n'est pas inintéressant. C'est pas pour ça que tout d'un coup on va aller dans un ordre, que ça va devenir quelque chose de d'établi, puisque ça va être de nouveau contesté, heureusement. Mais ce mouvement, il est intéressant. Et pourquoi la contestation devient instituée, peut-être parce qu'à un moment donné, elle répond, et peut-être que c'est cette question du Derain tout à l'heure dont on parlait, elle répond à un moment donné à un besoin de la société. Peut-être que c'est ça, à un moment donné, peut-être cette contestation vient répondre à un besoin, à un moment de notre société. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on redécouvre les choses. Après, je voudrais juste dire, je pense que dans les grandes expositions qui nous font d'ailleurs quand même souvent découvrir ou redécouvrir des peintres, il y a quand même une volonté politique, qu'on soit clair, mais heureusement animée d'un travail de recherche énorme. On va quand même rendre hommage au métier de conservateur de musée et des directeurs de musée. En 2013, par exemple, quand le Petit Palais fait une exposition qui met en avant le peintre Jordaens, ce qu'on connaît mal, qui est un contemporain de Rubens et de Van Dyck, justement. Voilà, ça c'est intéressant. Ou si je vais plus loin en arrière, en 1934, cette fameuse exposition des peintres de la réalité qui a été faite au musée de l'Orangerie et qui tout d'un coup permet de voir, de regarder, puisque c'est ça en fait, une exposition, ça permet de voir Georges de la Tour et les frères Lenain. Voilà, là c'est, il y a une vraie ambition, mais avec voilà, une recherche derrière que je trouve voilà, tout à fait intéressante.
Les Martinet.
Oui, j'avais évoqué Gustave Caillebotte. C'était une histoire qui me semblait intéressante, justement, cas d'école ou cas trop particulier, parce que lui, il a été redécouvert plusieurs fois, au moins une fois juste après sa mort, parce que, enfin, au départ, c'était quelqu'un qui fréquentait le milieu de l'art, mais dont on ne savait pas qu'il était peintre. Il a fallu le découvrir. Il a connu l'opprobre à cause de Zola. Il a été redécouvert en 1976 grâce au travail d'un historien américain. Aujourd'hui, il bénéficie, disons, d'une bonne couverture médiatique. Il a un fort attrait de la part des États-Unis. Je crois que c'est 42% des expositions qui se font là-bas, un peu en France, avec un marché en dents de scie, dit le Art Media Agency. Pourquoi est-ce que j'explique ça? Parce qu'aujourd'hui, Gustave Caillebotte se trouve un peu dans un entre-deux, en fait, précisément dans ce moment où il ne cesse de ressortir, appuyé par un marché de l'art important, mais finalement sans jamais émerger complètement au sein des grandes institutions. Je termine en citant Art Media Agency. Gustave Caillebotte est donc un exemple étonnant d'artiste boudé pendant près d'un siècle avant d'être redécouvert dans une certaine exaltation, aussi bien par les marchés que les institutions. Témoigne de cela de très bons résultats pour les œuvres de l'artiste aux enchères, mais dans un marché toujours branché sur courant alternatif. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus, parce qu'il me semble que pour certains peintres, en tout cas, il y a effectivement tout un écosystème et un environnement qui va déterminer leur émergence ou non, au-delà de l'intérêt purement, disons, historique ou artistique.
Sandra, donc, allez.
Oui, je voulais juste ajouter qu'il y a, malgré tout, dans cette volonté de mettre en avant des artistes, il y a des oublis plus graves, comme certaines artistes femmes. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il faut mettre à l'honneur aussi donc, tout ce travail des conservateurs de musées. Par exemple, l'exposition Carole Rama, qui avait été faite, par exemple, qui est une peintre des années 20-30, qui a côtoyé le surréalisme, qui ensuite est passée à l'Arte Povera, etc., qui a un travail incroyable. Je ne vais pas le m'étendre ici, mais voilà, qui a été redécouvert, je crois que c'est en 2015, au Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Donc ça, c'est une artiste femme qu'on avait oubliée. Je pense que c'est essentiel de la redécouvrir. Et puis, par exemple, au Quai Branly, cette grande exposition The Color Line, qui était dédiée à l'art afro-américain depuis les années 20, également réalisée par Daniel Soutif, qui était quand même l'occasion de découvrir des grands noms de l'art africain-américain.
Corinne Rondeau.
L'art est toujours rétroactif.
On finira là-dessus.
Et oui, les artistes femmes, évidemment. J'avais noté, oui, mais comme je ne lis pas mes notes, forcément.
Non, parce que c'est vrai que, pour le coup, on a été plutôt gâtés à Paris ces dernières années avec nombre d'expositions importantes de découvertes au mieux, redécouvertes au mieux, découvertes souvent pour nombre d'artistes femmes majeures, que ce soit au Jeu de Paume, que ce soit au Grand Palais, que ce soit des grandes institutions qui ont fait leur travail. Allez, quelques recommandations d'autres découvertes, redécouvertes. Le golem est toujours là, Corinne Rondeau.
Et il sera toujours
là. Il sera toujours là. Et il est pour l'instant, en tout cas, en sujet d'exposition au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris.
Oui, alors bon, évidemment, le golem, moi, c'est Paul Wegener qui m'a conduite au musée d'art et d'histoire judaïque pour ce golem. Alors moi j'ai beaucoup aimé cette exposition qui, ne soyez pas déçus, parce que c'est plutôt une exposition culturelle. C'est-à-dire, évidemment, c'est une des origines les plus anciennes, le golem, cette figure de Janus, à la fois sauveur, à la fois destructeur. C'est celui qui va échapper au contrôle de son créateur et qui est né du livre des psaumes. Moi, ce que j'ai aimé, c'est cette petite... Enfin, d'abord, une première pièce en bas de Gormley, une sculpture comme un dos de tortue, on va dire. En fait, quelque chose qui va se déployer. C'est ça qu'on attend de cette boule, en fait. Et c'est vrai que c'est un déploiement, en fait, transhistorique et transmédiatique aussi, parce que ça va de l'histoire du rabbi Love, qui va créer, donc, qui aurait créé au 12e siècle, au 15e siècle, pardon, ce golem dans le ghetto de Prague, donc toute l'histoire, enfin ce rapport à l'écriture, puisque vous savez que c'est la dimension de la lettre dans la tradition hébraïque, c'est celle qui conduit à produire la création elle-même, puisque c'est dans les mots, littéralement, avec leurs valeurs et les valeurs numériques de chaque mot, que la production, la création même a lieu. Et donc le golem, c'est Ève plus Adam, ça fait 73, qui est le chiffre du golem, par exemple. Et donc, vous avez effectivement des œuvres artistiques, mais aussi vous avez de la BD, de l'illustration, des films. Alors, Wegener, vous saviez que Julien Duvivier avait fait un golem ?
Ah oui, ça, je l'ai vu.
Ah, vous l'avez vu ? Alors, je ne l'avais jamais vu, figurez-vous. Alors, j'étais sciée.
Ah oui, oui. Duvivier est un de mes dieux.
Alors, c'est très intéressant par rapport à la discussion que nous avions, parce que le golem 1920, Nuit Pragoise 68, bon, ça, c'est un film tchèque, 67, alors RTF, et Jean Duvivier 36. Si on regarde bien les dates, c'est encore des dates, comme le dit Ada Ackermann, qui est la commissaire de l'exposition, le golem surgit en temps de crise. L'année prochaine, enfin cette année, en fin d'année, on aura un golem The Return qui va sortir sur nos écrans. Et en fait, le golem, c'est effectivement celui qui surgit pour protéger le peuple juif qu'on accuse de tuer les autres, etc. Et donc, cette exposition, des origines de la Bible, on va dire, de cet Adam, cette terre, cette argile sur laquelle l'écriture a aussi lieu, jusqu'à la cybernétique, jusqu'à la construction de la nanotechnologie, puisque la crise, c'est aussi, cette exposition soulève la question de la limite, de la maîtrise aussi, puisque la cybernétique, vous savez que c'est aussi une manière de contrôler l'informatique, la communication, en fait, on est dans le contrôle, donc contrôler sa créature. Donc cette exposition, elle est à la fois étrange et en même temps culturellement, elle nous renvoie toujours à la même racine qui est celle de nos origines, cette terre, et cette terre dans laquelle on travaille et on produit des actes, et c'est la question, toute la question même du savoir qui n'a d'intérêt que d'action, et donc c'est vraiment une exposition intéressante, et le catalogue est absolument formidable. Absolument, je le conseille, c'est une lecture simple, formidable, et puis quand vous lisez Marc Alain ou Aklin qui dit « Un mot est une histoire d'amour entre une voyelle et une consonne », vous ne pouvez qu'acheter ce catalogue.
Bon, vous avez un catalogue d'exposition « Golem, avatar d'une légende d'argile », c'est au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris jusqu'au 16 juillet, ce dimanche, 11 juin, le matin à 11h, à la conférence d'Ada Ackermann, au commissaire d'exposition « Quand le cinéma anime le golem ».
Et, oui.
Et puis l'après-midi, il y aura une table ronde autour des littératures du golem à 15h.
Je serai ailleurs.
Bon, écoutez, vous serez...
Le matin, non. Ouais. Je serai à la maison de Chateaubriand.
Bon, écoutez, vous nous donnerez votre agenda. Sandra, donc, on va aller peut-être avant-goût d'une exposition dont on parlera plus longuement parce qu'elle nous a beaucoup séduites, nous aussi, Médusa.
Oui, donc restez au Musée d'art moderne de la ville de Paris lorsque vous allez voir l'exposition de Rhin Balthus Giacometti et allez voir cette exposition, donc Médusa, le sous-titre c'est Bijoux et tabous, ça se tient jusqu'au 5 novembre.
Ça laisse un peu de temps.
Voilà, au Musée d'art moderne. C'est une exposition donc, qui a été faite par la commissaire Anne Dressen, j'insiste parce qu'elle avait déjà orchestré plusieurs expositions, notamment une exposition qui s'appelait Décorum, qui était déjà aux frontières des genres et qui s'attachait aux tapis et aux tapisseries réalisées par des artistes. Et cette fois, explore la question des bijoux. Donc les bijoux, souvent considérés comme un art mineur, réduit à leur fonction d'ornement. Et ici, le bijou, et c'est ce que souligne l'exposition, est une des formes, montrée comme une des formes artistiques les plus anciennes, une forme ambiguë entre la parure et la sculpture, une forme finalement qui a une dimension qu'on oublie totalement, qui est une dimension subversive et performative. C'est une exposition que je trouve tout à fait jubilatoire, qui s'attache aussi à la manière dont le XXe siècle et les artistes contemporains ont réinventé cet art du bijou pour l'éloigner des arts décoratifs. Donc c'est une exposition transversale qui mélange les siècles, les cultures, les genres, et finalement qui s'empare en fait des catégories souvent négatives associées au bijou, le trop féminin, le trop précieux, pour plutôt interroger son rôle dans la société. Et notamment, il y a une question centrale dans l'exposition qui est très bien développée, qui est la question de l'identité, le bijou comme vecteur d'identité ou comme troubleur d'ailleurs d'identité. Je vais faire vite, mais l'exposition aussi, à mon avis, a un intérêt puisqu'elle rappelle que le bijou n'est pas seulement féminin, c'est aussi souvent, et depuis la nuit des temps d'ailleurs, un insigne de pouvoir, par exemple, pour les hommes, donc un attribut plutôt masculin. Dans certaines cultures, c'est même un symbole d'immortalité. Enfin voilà, on a des objets étranges ou célèbres, comme le gant de Michael Jackson, des bijoux érotiques, des objets de rituels anciens. Ça va de la broche la plus précieuse à la ceinture de chasteté. Et on a une quinzaine d'œuvres contemporaines plutôt très bien choisies, je trouve, avec cette très belle œuvre de Jean-Marie Apriou, qui est comme le regard de Méduse, finalement, au début de l'exposition. Une œuvre de David Douard, avec une sorte de tableau qui comprend un grills de rappeur, vous savez, cette prothèse dentaire pour modifier l'élocution. Un grand Mike Kelly, bien kitsch, et un Thomas Hirschhorn, qui est un grand collier de rappeur surdimensionné, en toc. Voilà, donc beaucoup de découvertes, beaucoup de redécouvertes. Voilà, mon seul petit regret, c'est que la scénographie est...
C'est pas vos bijoux.
C'est que la scénographie est un petit peu muséale, mais je pense que...
Non, aussi, c'est très bon.
C'est pour des questions d'assurance. Non, mais je pense vraiment que ce sont pour des questions d'assurance, parce qu'il y a eu des prêts incroyables. Voilà, donc c'est ce que je me suis dit. Non, mais par rapport au sujet, on aurait aimé peut-être que ce soit un peu plus incarné.
De toute façon, il faut prévoir la journée entière au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, parce que, bon, si on veut en plus voir avant de Rhin Baptiste Giacometti, parce que cette exposition Médusa, elle est extrêmement pléthorique et vraiment absolument réjouissante. Elle dure jusqu'au 5 novembre, donc on a le temps d'en parler, ce qui est bien. Le temps pour moi, il faut que je fasse vite, d'annoncer aussi samedi 10 juin, une nouvelle journée de masterclass en public au studio 105 de la Maison de la Radio. 5 masterclass auxquelles on peut bien sûr assister, entrée gratuite, il faut réserver sur le site maisondelaradio.fr. Masterclass avec Mathilde Monnier, avec Eric Ruff, avec Macha Makeyev, avec Annette Messager et avec Olivier Assayas, de 10h à 19h30, une journée à la radio avec tous ces gens-là qui viendront parler de leur travail.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Suite et fin de cette dispute art plastique dans 10 minutes. Et avant cela, on va essayer de parler quand même d'un musée, Marmottan Monet, qui n'est pas très loin de la Maison de la Radio, pour y découvrir l'exposition consacrée donc à Camille Pissarro, dernière exposition monographique du peintre, vous l'avez dit, Xavier Martinet, qui remonte à 36 ans quand même. Est-il le premier des impressionnistes? C'est ce que disait Cézanne, c'est en tout cas le sous-titre de l'exposition, qui retrace son parcours en une soixantaine d'œuvres. Claire Durand-Ruel et Christophe Duvivier sont les commissaires de cette exposition. Allez, sans plus attendre, Sandra, Adam, Coralie, nous vous suivons dans ce musée Marmottan Monet.
Oui, donc une grande exposition monographique dédiée à Camille Pissarro. Pour être honnête,
Soyez-le.
Je suis pas une fanatique de Pissarro à la base. En tout cas, je connais mal son œuvre et ce que je croyais connaître, c'était souvent ses paysannes dans des champs de blé, comme l'affiche de l'exposition. Donc un sujet qui me semblait un petit peu
côté boîte de chocolat, mais il n'a pas fait que ça.
Exactement. Et donc je suis allée voir cette exposition avec curiosité pour savoir si ça pouvait m'inspirer de nouveaux sentiments. Et c'est vrai que j'ai découvert des tableaux et des périodes vraiment qui m'ont fait un petit peu changer d'avis, en tout cas qui ont retenu mon attention et mon attention d'historienne de l'art, puisque c'est une exposition très limpide, là, cette fois, qui met en avant donc, l'évolution de Pissarro dans ce contexte qu'est la naissance de l'impressionnisme, un 19e siècle finalement qui découvre la peinture de plein air et de paysage, et puis ensuite une exposition qui va mettre en avant la vision toujours renouvelée d'un peintre acharné, en fait, je pense que ça c'est quelque chose de très important, acharné face au réel, qui n'arrête pas de travailler et qui n'hésite pas à un moment donné vers 1886 à se détourner de l'impressionnisme pour aller tenter et suivre les recherches de Georges Seurat et des néo-impressionnistes. Alors, dans ce découpage très clair qui est chronologique et géographique, on commence avec les premières années qui nous montrent un Pissarro, j'allais dire un Pissarro dans sa jeunesse aux Antilles danoises dans les années 1850. Là, on découvre un tableau de la National Gallery de Washington qui est absolument adorable, j'allais dire. Non, c'est pas le mot.
Non, mais c'est celui qui vous vient, Sandra.
Ce sont deux femmes causant en bord de mer de 1856. Et en fait, non, c'est pas seulement adorable. On remarque déjà la qualité de lumière, en fait, dans ce tableau de Pissarro, avec cette lumière qui vient envelopper, comme cela, les personnages de cette scène qui devient ainsi paisible. Et puis on a les premières œuvres ensuite parisiennes qui montrent également, comme Bord de Marne de 1864, son attention à la lumière. Donc on traverse comme cela, de manière géographique, les différents sujets de Pissarro. Évidemment, on s'appesantit sur la partie, la première exposition impressionniste, réalisée avec Monet et Gustave Caillebotte. On en parlait juste avant. Et puis, deux salles qui m'ont beaucoup intéressée. Donc, cette salle, justement, focus sur le néo-impressionnisme de Pissarro, avec des œuvres, alors, totalement inconnues de moi, qui sont des œuvres, des peintures sur soie, en forme d'éventail. Apparemment, il en a fait une soixantaine. Sûrement surgie à cette époque où c'était la mode du japonisme, j'imagine. Et notamment, un de ces éventails, donc c'est un magnifique tableau qui représente un troupeau de moutons soleil couchant en 1889, et on voit la lumière sur les moutons qui les fait se confondre avec l'herbe qui ondoie, et l'horizon qui se court pour dialoguer avec la forme de l'éventail. Enfin voilà, moi là j'ai découvert des œuvres absolument, absolument magnifiques. Et puis toute cette dernière période, alors que Pissarro est la plupart du temps à Erani sur Epte, où d'ailleurs il y a une autre exposition, si je dis pas de bêtises.
Ah, mais vous n'en dites pas.
Pissarro. Sur Pissarro.
Pissarro à Erani, c'est au musée du Luxembourg.
Au musée du Luxembourg, oui. Il fait aussi différents voyages, notamment en Normandie et à Paris. Et là, je trouve qu'il y a des tableaux vraiment, là, que je ne connaissais pas, assez incroyables, avec une palette très pâle, comme débarrassée de beaucoup de choses, qui s'unit entièrement avec les effets de brouillard qu'elle dépeint. Et surtout, la dernière œuvre de l'exposition, qui s'appelle Place du Théâtre Français, effet de brouillard 1897, où là, il y a carrément une partie du tableau qui est pratiquement effacée par le brouillard qui se confond avec le ciel, et qui nous fait quand même fortement penser à la série des parlements de Monet que ce dernier réalisera entre 1900 et 1904.
Pour être précis. Corinne Rondeau, vous allez dans quel esprit vous voir cette exposition
Alors,
Pissarro?
Moi, j'ai jamais été fan de Pissarro. Bon, j'ai pas trop changé d'avis, mais je le trouve émouvant, cet homme. Je le trouve émouvant parce que quand on se plonge aussi un peu dans le catalogue, on découvre que c'est le plus sédentaire. Celui qui a vécu aux Antilles danoises ne veut pas aller dans le sud avec ses âmes.
Il connaît la lumière, lui, déjà.
Il connaît la lumière, mais vraiment, il reste au nord. Et d'ailleurs, ses tableaux sont des tableaux d'automne et d'hiver beaucoup. On voit le feuillage de Corot dans le feuillage de Pissarro. Et c'est un homme qui aime étendre la lumière et les ombres. Ça, c'est il y a notamment un tableau, j'ai oublié le nom et puis je vais pas essayer de me rappeler. Vous avez un chemin, une femme qui marche sur ce chemin avec un cabas à la main, sous le bras, et il y a une trace de lumière qui coupe le chemin. La première figure, c'est cette trace de lumière qui d'un coup va ouvrir le chemin à cette femme qu'on voit. Ou alors un personnage, une femme et un enfant, une femme qui une mère sans doute qui tient un enfant à la main, de dos sur un chemin d'automne ou d'hiver. J'ai trouvé qu'il avait une manière. Alors on parlait des lenins et la pauvreté, etc. Là, c'est vraiment l'humilité absolue. D'ailleurs, lorsqu'on disait, on le comparait à Millet, il en était très agacé, puisqu'en fait, ces paysans, ces campagnards ne sont pas du tout pauvres. Ils sont dans leur état, en train d'être au travail. Et puis il y a trois mots chez Pissarro qui reviennent. C'est liberté, travail et unité. Et cet homme n'a cessé de travailler. C'est ça la caractéristique aussi de son travail, c'est de travailler avec les autres. On pense à Fritz Melby par exemple, ou alors avec Cézanne, où vraiment il y a un rapport très très de très grande proximité avec l'un. Ou effectivement,
c'est un des premiers qui, enfin l'exposition le souligne, qui découvre et qui Cézanne et Gauguin. Par exemple.
Oui, Pierrot a été le maître de Gauguin. Et Cézanne disant, l'étude modifie notre vision, ce qui renvoie aux théories anarchistes de ce grand maître Pissarro, puisqu'apparemment, c'est Cézanne qui disait à Vollard qu'il avait donné littéralement la forme vraie de l'impressionnisme. C'est-à-dire, non pas simplement qu'il est né, il a de la veine, disait Cézanne à Vollard, au nez aux Antilles, mais qu'il a appris aussi le dessin sans maître, mais qu'en plus, il a éliminé dès 1865, le noir, le bitume, la terre de Sienne et les ocres. Et il n'a travaillé que sur trois couleurs primaires et ses dérivés immédiats. Donc en fait, la question du post-impressionnisme est un attachement, je dirais, d'expérimental. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses, mais c'est vraiment, je dirais, un rapport de principe au post-impressionnisme. C'est trop contraignant pour lui. Et on voit d'ailleurs ce qu'il va en faire. Son point, il le met avec sa couleur. Il y a des jardins au point qui sont faits, qui n'ont rien à voir avec le post-impressionnisme, quand on sait que c'est pas du pointisme mais du divisionnisme, donc on divise la lumière pour faire exactement la couleur qu'on attend, et qu'on a la palette avant de peindre. Et une fois que vous avez commencé le tableau en post-impressionnisme, vous pouvez plus vous arrêter, hein. C'est de l'art conceptuel avant l'art conceptuel. Donc moi je l'ai trouvé très attachant, et en même temps il y a quelque chose de lui qui n'est pas un Monet, parce que ce qui fait la renommée d'un Monet, c'est son côté intemporel. Chez Pissarro, il y a un côté de la permanence des saisons. Il est là, et en même temps, on voit bien que même s'il est dans les séries comme Monet, ces séries n'ont pas la puissance, parce qu'en fait, il va pas à la surface. C'est pas un rapport à la surface. Il est très fort dans les fonds et dans les ciels, sauf qu'il les fait jamais revenir à la surface. Mais là, la lumière est très belle. Au revoir, merci à vous. merci pour tout.
Merci beaucoup de cette concision à toutes deux. Donc, l'exposition Pissarro, le premier des impressionnistes, et son sous-titre est au musée Marmottan Monet à Paris. Jusqu'au 2 juillet, il y a un catalogue de cette exposition édité chez Azan. Nous concluons avec le jeu de la dispute, rejoint comme chaque soir par Justine Dibling, qui va nous rappeler la question du jeudi hier soir et nous en donner la réponse.
Donc la question était, en 2015, Yasmina Reza a travaillé avec le grand metteur en scène de la Schaubühne de Berlin, Thomas Ostermayer, pour monter une de ses pièces. Quel en est le titre? Et la réponse était Bella Figura.
Si on fait gagner ce soir des places de cinéma pour le film Le jour d'après, donc Sang-Soo, qui est sorti aujourd'hui dans les salles, la question Justine?
En 2010, Aung San Suu remporte le prix Un certain regard à Cannes pour son film Ha Ha Ha. Dans quel pays prévoit de se rendre le personnage principal au début du film pour rejoindre sa tante?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions. Vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast et puis bien sûr vous pouvez nous écrire. Vous pouvez le faire également via la page Facebook La Dispute FC ou sur le Twitter Dispute FC. Rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la musique en compagnie de Sophie Rosemont et Hugo Cassavetti. À notre affiche, L'Esquisse 3 de Kenny Arcana. Planétarium, projet collectif de Stephen Stevens, Bryce Dessner, Nico Molly et James McAllister, et puis le disque de Roger Waterson, Is This the Life We Really Want? Point d'interrogation. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir dans quelques instants, le journal de la rédaction.